Erev Tov les Koulam, Erev Tov. Voilà, on revient dans notre étude du livre de Bereshit et nous sommes arrivés, et oui, je le dis, à l'avant-dernier cours du livre de Bereshit. C'est-à-dire qu'il y a encore deux cours et on a terminé le livre de Bereshit. C'est assez incroyable quand on pense qu'on a commencé il y a de cela deux ans et qu'on a étudié verset après verset. Pour en arriver là, c'est assez extraordinaire. En bataille, nous allons aujourd'hui donc étudier. Et pour la suite des événements, pour le dernier cours, comme je l'ai déjà annoncé plusieurs fois, je ne veux pas que le dernier cours se fasse en Zoom. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, on va voir avec Emouna, nanana. Mais si on peut se retrouver la semaine prochaine, on se retrouve à Koltov et on terminera le dernier cours en chair et en os. Sinon, eh bien, on attendra et on étudiera autre chose entre-temps, mais le dernier cours, quoi qu'il arrive, il sera pas derrière un ordinateur. Donc, là, je reprends donc notre livre de Bereshit et nous sommes au chapitre même tête, verset Aleph. Donc, c'est en fait les dernières directives de Yaakov à ses enfants. Nous sommes mamash, à la fin de l'histoire. Et à la fin de cette histoire, Yaakov veut donner une vision d'éternité. Et donc, c'est pour ça que Vayikra Yaakov el Banav, Vayomer et Hasefu Vayagida Lachem et Asher Yikra Etrem Beacharit Hayamim. Rassemblez-vous, car je veux vous dire ce qui va vous arriver à la fin des temps. Enfin, pas vraiment à la fin des temps. Nous dira Rashi que Ratsa Yaakov avinu les galotes et taquets, ve istalka mimeno shrina, ve itri lomar dvarim acherim. C'est-à-dire que Yaakov voulait dévoiler Medinat Israël, Yom Yerushalayim, le Corona, il voulait parler de tout ça. Il voulait parler mamash de la fin des temps. C'était l'objectif. Aval nistalka mimeno shrina, et il a parlé d'autre chose. Et de quoi il a parlé? De acharit ayamim. Qu'est-ce que cela veut dire, Abotai? Eh bien, ça veut dire la chose suivante. Acharit Hayamim, c'est un concept. Acharit Hayamim, c'est à chaque fois qu'on sort d'exil. À chaque fois qu'on sort d'exil, ça s'appelle Acharit Yamim par rapport au Yamim qu'on a passé en exil. Il y a un des Acharit Yamim qui s'appelle également la Ketz. C'est celle que nous vivons aujourd'hui. Mais ce n'est pas forcément à chaque fois qu'on parle de Acharit Yamim qu'il s'agit effectivement de la Géoula finale. Donc, Yaakov voulait dévoiler la quête, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et finalement, il va donner le projet du Ham Israël lorsqu'il sort d'exil. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il sort d'exil? Lorsqu'il va sortir de l'exil de l'Égypte et qu'il va prendre possession de la terre d'Israël. En d'autres termes, Yaakov, ici, va donner les brachot à ses enfants. Tout va bien jusque-là. Seulement les brachot qu'il donne à ses enfants va tout simplement mettre en surbrillance l'idéal que chacun de ses enfants, que chacune de ses tribus représente au sein de l'entité collective qui s'appelle Israël. En fait, si on regarde de près les différentes brachot, eh bien, on va se rendre compte que chacun des 12 tribus a un rôle particulier à jouer que son frère ne peut pas remplir. Il y a aussi une autre valeur à ces brachot que Yaakov va donner, c'est en filigrane d'expliquer à tout le monde pourquoi le roi, c'est Yehuda. Pourquoi il est le seul à pouvoir régner. En fait, pas seulement dans la bracha que Yehuda va recevoir, mais également dans les brachot que les autres vont recevoir, on va pouvoir voir pourquoi ils ne peuvent pas être le chef. Et donc, pourquoi Yehuda l'est. Alors, allons-y. Rentrons dans les brachot. Je suis désolé, je ne crois pas que ça vienne de moi. Alors allons-y dans les brachot. יקבצו ושימו בני יעקב, ושימו אל ישראל אביכם. Il leur dit, écoutez, fils de Jacob, écoutez ce que Israël a à vous dire. Quelle est cette dualité? Eh bien oui, là il parle aux enfants de Jacob, puisque nous sommes encore en exil, nous sommes au début de l'Égypte. Mais il dit, ce que je vous dis maintenant n'est pas une phrase d'exil, c'est une bracha qui provient de la dimension d'Israël, pour lorsque vous allez vous-même redevenir Israël. Avant que je rentre maintenant dans le verset Guimel et donc dans le début des brachot, je vous invite deux secondes, à prendre la fin des brachot, le dernier verset que nous on va étudier aujourd'hui, à savoir au verset Kafret, on nous dit « Kol ele shivtei Israël shenem asar » Tous ceux-là sont les enfants, sont les Israël, les tribus d'Israël, ils sont 12. Zot asher diber lahem aviem, vaivarech otam, ish asher kevirchato, berach otam. Dit la Torah que Yaakov les a tous bénis, chacun selon sa beracha. Et donc, même si des fois ça va être difficile, et je pense particulièrement à Reuven, Shimon et Lévi, eh bien ce que Yaakov leur dit, c'est une bracha. Pas un reproche, pas une réprimande, une bracha. Il va falloir qu'on essaye de comprendre comment. Ok ? Trêve d'introduction, allons-y. Donc je reprends le verset Guimel et c'est parti. Ah, oui Johan, ça va et toi ? Tu me l'as envoyé ? Ah, il y a une minute, ah t'es marrant. Deux secondes alors. Alors attendez, je me connecte également à Zoom. Hop là. Voilà. Hop là. Deux petites secondes, c'est les inconvénients du direct. Voilà. Hop là. Et c'est parti. Hop là. Et voilà. Yofi. Donc, alors, Johan, nous, on avait commencé depuis 6 minutes sur YouTube. Donc, on est en train d'étudier le chapitre même tête et on est au verset Guimel, c'est-à-dire les brachot que Yaakov donne à tous ses enfants qui, en fait, correspond à l'idéal que chacun doit remplir, le rôle que chacun a à jouer. Parce qu'il va falloir remplir 12 tribus qui chacun ont un rôle différent. Et donc nous commençons avec Reuven. Reuven, Bechori Ata, Kochi Vereshit Oni, Yeter Seet Veyeter Az, Achaz Kamaim Al Totar, Ki Alita Mishkeve Avicha, Az Chilalta Itzui Ala. Qu'est-ce que c'est que cette phrase-là? Alors je reprends. Reuven, tu es mon Bechor, dit Yaakov. Tu es mon Bechor. Bechori at, alors Chazal diront que tu es venu de la première goutte de semence qui est sortie de mon corps. Kori, vereshit oni. C'est ce que dit le verset. C'est une force incroyable, donc, que possède Reuven. Il est le premier par excellence, Nachon. Il est le premier par excellence, il aurait donc toutes les qualités, a priori, pour être le chef. Mais il a un problème qui peut être une qualité si elle est aiguillée. Il est yeter se'et ve'yeter az. Il est trop impulsif. Pachaz kamaim. Il est un peu impétueux comme le torrent. Al totar ki alita mishkeve avicha az chilalta itzuyala. C'est à cause de cette impétuosité que tu es tombé avec Bilha, et que ce soit, comme c'est marqué dans la Torah, directement dans les versets, que tu as couché avec Bilha, ou comme nous expliquent nos sages, qu'il a simplement changé la couche de son père de la tente de Bilha et l'a mise dans la tente de Léa, c'était quelque chose, une action qui était évidemment dictée par un Dachaf Pnimi, c'est-à-dire par un instinct profond, quelque chose qu'il a ressenti. Mais peut-être qu'il aurait fallu aiguiller ses instincts. Reuven, il a la force du premier-né, mais il a également l'empressement du premier. Vous comprenez qu'on ne peut pas mettre les commandes du pays, de la nation, entre les mains de quelqu'un qui est impulsif. C'est bien des fois d'être impulsif. C'est important, alors que de temps en temps, eh bien, le chef, le roi, puisqu'il a une telle responsabilité sur ses épaules, eh bien, passe son temps à réfléchir. C'est important qu'il ait dans son staff des gens qui disent « Allez, on y va, il faut y aller ». Mais ça ne peut pas être lui qui, de manière générale, va prendre toutes ses décisions sur un coup de tête. Donc Réhouven, il est celui qui est, il a les qualités de dirigeant, mais il est trop chaud. Il a le sang trop chaud pour être le dirigeant. Il sera donc proche du chef. Si on devait, moi je ne sais pas, aller dans le système américain, on pourrait le nommer vice-président. C'est-à-dire celui qui a les qualités de chef, mais qui doit être en numéro 2. Ça, c'est Réhouven, à cause de son côté impulsif. Et ensuite, on nous dit Shimon ve-Lévi, Achim. Voilà, déjà, point. Déjà, Shimon et Lévi, la première chose qu'ils ont à apprendre, c'est la dimension de Ahva, de fraternité. Tu ne trouveras pas plus frère que Shimon et Lévi. Shimon ve-Lévi, Achim. Ce sont des gens pas impulsifs, mais ils savent très bien éclater leurs ennemis. Ils ont la violence en eux. Et là, je vous pose la question. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ben là encore. Quelqu'un qui serait violent et qui se déchaînerait n'importe comment, c'est terrible. Mais quelqu'un qui a cette force et cette violence en lui, mais qui ne la met en place que face à l'ennemi, alors c'est terriblement bien, terriblement bénéfique. Donc Shimon ve-Lévi, non seulement, non content de nous avoir enseigné la notion de Ahva, de fraternité, ils nous apprennent qu'il faut être capable de se battre pour ce que l'on croit. Le problème, c'est que quand ils sont ensemble, on n'arrive pas à les gérer. C'est ce que dit Yaakov. Besodam al tavonafshi. Ubi kehalam al techat kevodi. Besodam, ça veut dire du verbe istoded, être collé. Lorsqu'ils sont collés, al tavonafshi, je ne peux pas les gérer. Ubi kehalam, lorsqu'ils marchent ensemble, al techat kevodi. C'est-à-dire, je n'ai aucune emprise sur Shimon ve-Lévi quand ils sont ensemble. Personne ne peut les gérer. Qui a pas, qui peut pas, Margou Ish, ou bien son ami Krouchor. Ils ont tué Shrem. C'est eux qui ont été les instigateurs de jeter Yosef dans le puits. Arour Apam, qui az, Vevratam qui kachata. Ce qu'ils ont fait à cause de ces qualités qui sont les leurs, c'est Arour. C'est terrible ce qu'ils ont fait. C'est pas bien d'avoir jeté Yosef dans le puits. Alors, est-ce que ça veut dire que il n'y a rien à tirer de ces qualités qui sont les leurs? Eh bien, si. Et c'est pourquoi Yaakov donne la solution. Achalkem be Yaakov ve'afitzem be Israël. Je vais les séparer et les envoyer partout. C'est terriblement ingénieux. Bon, c'est de la névoie, vous me direz. Mais on a besoin de ces forces de Shimon et Lévi. On a besoin de ces gens qui sont prêts à se battre pour leur honneur, pour l'honneur du peuple juif. Je rappelle quand même les faits. Shimon et Lévi, c'est les gens qui, lorsqu'ils ont vu Dina se faire violer, n'ont pas accepté qu'on règle le problème comme ça. Ils ont dit « Achezona ya aset achotenu ». Notre sœur, ce n'est pas une prostituée. En d'autres termes, pour l'honneur d'Israël, Shimon et Lévi sont prêts à se battre jusqu'au bout. Même contre l'avis de la tête dirigeante. Contre la vie de Yaakov, à l'époque. Shimon et Lévi, donc, ils ont ces qualités incroyables, et on va donc les séparer et les diviser, disperser. Où sera Shimon? Shimon sera englobé dans Yehuda. De telle sorte que nos sages nous diront dans le Talmud que Mishevet Shimon
ayu melamde tinokot lesarei Yehuda. C'était eux les précepteurs des princes de Judée. Et là, je vous pose la question. Quand on parle d'éducation, quand on parle d'être responsable de l'éducation d'un peuple, est-ce qu'il faut, en tête de liste, c'est-à-dire celui qui est la représentation de l'éducation, est-ce qu'il faut que ce soit un mathématicien ou est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a devant ses yeux, d'abord et avant tout, le fait d'inculquer à la jeune génération la fierté d'appartenir à leur identité. Baruch, que c'est important les mathématiques, ce que tu veux. Mais le alef-bet du chinuch ha-yehoudi, c'est d'être fier d'être juif. C'est Shimon. Shimon, sans aucun doute, fera un très bon ministre de l'éducation. Lévi, quant à lui, Lévi, il est partout. Lévi, il a été envoyé partout. Et son rôle, c'est tout simplement de savoir ce qui se passe chez tout le monde. Il est en contact avec tout le monde. C'est ça, Lévi. Cher Lévi, comme dirait Rabbi Jacob. Il connaît les problèmes de chacun. Il est présent dans chaque tribu. Il n'y a pas de meilleur rôle pour Lévi. Il est en plus, comme dira le Rambam, préposé à l'enseignement de la Torah. C'est lui qui doit faire en sorte que personne n'étudie pas. Que tout le monde étudie la Torah. Lévi, connaissant donc sa communauté, son peuple, eh bien fera le meilleur ministre de l'intérieur possible. Il sait ce qui se passe. À l'intérieur, il y est. Après cela, nous arrivons à Yehuda, mais je vais sauter Yehuda volontairement pour y revenir à la fin, évidemment. Après Reuven, vice-président, Shimon, ministre de l'Éducation, Lévi, ministre de l'Intérieur, nous arrivons à Zevulun. Zevulun, l'Echof Yamim Mishkon, Veu l'Echof Oniot, Ve'archato Al Tzidon. Zevulun, l'Echof Yamim Mishkon. À tort, les gens pensent que ça veut dire qu'il est sur la côte d'Israël. Non, c'est pas ce que nous dit le verset. Ou l'Echof Yamim. Il accoste toujours dans des mers, c'est-à-dire sur les ports des autres pays. Il fait le commerce international. C'est lui qui amène la Sora, c'est lui qui amène également toutes les marchandises qui sont de l'extérieur. C'est lui qui amènera également les gens à faire tchouva, nous disent nos sages. Parce que quand il arrive dans les autres pays, les gens voient Zvouloun, c'est-à-dire voient ce juif-là, ou ses descendants, ces juifs-là, et ils voient leur comportement. Ils disent, ah, mais c'est extraordinaire, d'où vous avez appris ça? Dis-nous, on vient de Jérusalem, viens, je vais te montrer. Et donc plein de gens se convertissaient en venant avec Zvouloun. Mais Zvouloun, son rôle numéro un, c'est de faire du commerce extérieur. Tu comprends que tu ne peux pas donner. C'est comme Shimon et Lévi, je n'ai pas dit, mais pourquoi tu ne peux pas donner le rôle de chef à Shimon et Lévi? On a dit qu'on avait besoin de leur force. Nakhon, mais ce sont des fanatiques. Ce sont des fanatiques, soit religieux, soit nationaux. On en a besoin de temps en temps, mais tu ne peux pas leur donner les clés du pouvoir. Impossible. Imagine-toi une ville où tout le monde est fanatique religieux. Il va voy. Heureusement que c'est que théorique et ça n'arrive pas. Zvouloun, quant à lui, vous avez compris, il est le ministre de l'économie par excellence. Mais tu ne peux pas lui donner à lui les clés du pouvoir parce qu'à ce moment-là, toute sa vision politique ne sera qu'économique en fait. Non, dans un État, dans une nation, dans une souveraineté, il y a des dimensions autrement plus importantes que l'économie. L'économie est très importante, mais il y a des dimensions qui la dépassent. Il sera donc un parfait ministre de l'économie. Yissachar Chamor Garen. Yissachar, c'est un Chamor Garen. C'est-à-dire un animal qui est capable de porter un poids très lourd, mais il l'accepte. Yissachar lui aussi, mais quel est ce poids? Il est tout le temps entre les lois. On parle quoi de loi? On parle quelle loi? On parle ici des lois de la Torah, évidemment. ils sont prêts à étudier la Torah et à en payer le prix. Vayar menucha kitov, ve'aret kinaema, vayet shichmol isbol, ve'ilema soved. Il sait que sa terre produit énormément, mais il préfère et il est prêt à ne pas s'en occuper, à payer un tribut à quelqu'un d'autre qui va s'en occuper pour qu'il puisse s'occuper de son truc, Rovet ben Amishpetaim. Issachar, il est prêt à étudier 14-16 heures par jour au Beit HaMidrash. Nous dirons Chazal, Arbe Rashe Sanedraot Yatsu mi Issachar. Beaucoup de chefs du Sanhedrin viennent de Issachar. Issachar, c'est le Ben Yeshiva par excellence. Alors oui, il sait qu'il n'aura pas une vie faite de luxe. Il est prêt à en payer le prix. Ou Chamor Garen. Ou Rovetz Ben Amishpetaim, c'est ça qu'il fait kiffer. Et il est prêt à en payer le prix. C'est fondamental d'avoir des gens qui sont kol kulam dans la Torah. Mais tu comprends que tu ne peux pas les mettre à la tête de l'État. Oy va voy si tu mets un kol elman à la tête de l'État. Bien sûr que non. Ben non, sinon ce pays va être détruit en 2 mois. Mais on a besoin d'avoir ces gens qui sont capables, pas toute la journée évidemment, parce qu'ils ont besoin d'amener la parnassa à leur famille, bien sûr, mais qui sont l'écrasante majorité de leur temps en train d'étudier la Torah. C'est fondamental pour un peuple qui est géré, dirigé par sa Torah. Issachar sera donc un excellent ministre des cultes. Dan, Yadin Amo. Tov Dan, c'est fastoche. Il sera un parfait ministre de la justice. Yehidan nachash ale darer veshefifon ale orach anoshech ikvesus veipol rochbo achor. Dan, c'est un outsider. Dan, il vit selon la loi, mais il ne vit qu'en marge des autres gens. Parce que je vous rappelle que dans la société humaine, tu ne peux pas vivre une interaction humaine uniquement avec la loi. N'en déplaise à nos amis qui veulent nous formatiser dans ce corona, on ne peut pas formatiser l'humanité uniquement par la loi. Je rappellerai ce que dit le Talmud Yerushalmi à propos de la destruction du temple, du deuxième temple. Il dit que « Lo charva Yerushalayim ella shedanu ba din Torah ». C'est-à-dire que pourquoi Jérusalem a été détruite au second temple ? Parce que les gens, ils faisaient la loi. Il y avait uniquement Midat Adin. Il n'y avait pas du tout de Rachamim. Rodaï, la loi, c'est très important. Mais tu ne peux pas ne pas également faire preuve de Midat Chesed, Midat Rachamim. Dan ne peut pas être le chef. Parce que si c'est lui le chef, ça sera un pays complètement aseptisé et complètement dénué d'humanité. C'est fondamental de garder cette humanité. D'un autre côté, tu ne peux pas être que Sarbak. Tu ne peux pas être que « Ouais, non, mais c'est mon pote, tout va bien, machin, tranquille, on va s'arranger à l'amiable. » Il faut également la loi. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on demande le mishpat de Dan Yadin Amo Kachat Shifte Israël, alors on va pouvoir te dire « L'Ishuatra Kiviti Hashem. » Mais c'est l'Ishuatra. On parle de quel Yeshua ? De l'Yeshua de Dieu. L'Yeshua tra qui vit Hachem. Ani kol kach rotze. Sheyelecha Yeshua. En d'autres termes, que tu puisses être dévoilé dans ce monde. Pour pouvoir être dévoilé dans ce monde, il ne faut pas se contenter que de tzedaka. Et là, il faut également mishpat. L'Eman yitzaveh et banav et beto acharav la'azot tzedaka ou mishpat. Donc Dan sera un très bon ministre de la justice. Gad, quant à lui, fastoche, Gad, getoud, yegoudenu, vou yugiagoud, akev. Gad, c'est un gdoud. Gad, il est né avec le bras comme ça. Il est né au garde à vous, Gad. Gad, c'est un militaire, c'est un soldat. Bah, c'est un soldat. Donc, pas facile. C'est sûr qu'il sera ministre de la défense, celui-là. Mais c'est sûr et certain qu'il ne peut pas être le chef. T'imagines ? un chef qui est soldat, qui ne voit que par le prisme militaire. Et qu'est-ce qu'on fait en temps de paix ? Ben, en temps de paix, on ne sait plus quoi faire. C'est extraordinaire. Iné, on avait en Israël un parti politique avec à sa tête trois chefs d'état-major, trois hommes qui sont des soldats dans l'âme. Ben, la seule chose qu'ils ont réussi finalement à faire, c'est de se faire la guerre entre eux. Ben, oui, parce qu'ils connaissent la guerre, la paix, ils ne connaissent pas. Donc, ben, Gad, il peut être un très bon ministre de la Défense, il ne peut certainement pas être le chef. Mais Asher, Shemena Lachmo, Vehu Yiten Ma'adane Melech. Asher, Shemena Lachmo. Asher, d'ailleurs son territoire dans la terre d'Israël, c'est le territoire où il y a le plus d'abondance. C'est de lui que vient la nourriture pour tout le monde. C'est lui qui donne à manger à tout le monde. Nous, c'est le ministre de l'Agriculture, de la Revachat, ce que tu veux. Grâce à lui, à Israël, il a à manger. C'est génial. C'est génial, mais là encore, un chef, il ne peut pas avoir comme seule préoccupation de nourrir son peuple. Ça doit être une de ses préoccupations, mais ça ne peut pas être la seule. Naftali, Ayala Shlucha, Unotenim Anotenim Reshafer. Naftali, il court vite, il écrit des poèmes, nous c'est pas shoot. Il sera le ministre de la Culture et des Sports. Mais il ne peut pas être le chef. C'est très important, la culture. Mais bon, benenu. Le sport, génial. Enfin bon, tu ne vas pas mettre un sportif à la tête de l'État. Il ne faut pas non plus exagérer. Ben Porat Yosef. Ben Porat Aleaïn. Ouh, papa, il est génial, celui-là. Ça commence fort. Tu vois que Yaakov, quand même, c'est Yosef. Il a un petit truc chez Yosef. Il te dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaim, Benot Saada Aleshur. Il est génial. Toutes les filles courent derrière lui. Vaimare Rou, Verabu, Vestemu, Baalechitzim. Et puisqu'il est tellement génial, tout le monde le déteste. Vatechev Beitan Kashto, Fozuz Roayadav, Midea Bir Yaakov, Misham Roe Even Israël. Mais lui, il s'en fout, il est stoïque. Il sait qu'il est au top. Et bien, il reste au top. Mais la vira veya zvreka, vet vet shaddai viva reka, birkot shamaim mimal, ou birkot teom revet se tachat, birkot shaddaim veracham, birkot avira gavru al birkot orai, at tavat givon olam, tiena le rosh yosef, ul kod kod nezir echav. Tous ces versets, quatre versets pour Yosef, montrent à quel point Yaakov l'adore, et montrent à quel point Yosef est parfait. Il est parfait. Il n'y a aucune fausse note. Donc, bah donc, tout le monde le déteste. Et oui, c'est très énervant un mec qui est parfait. Vous vous rappellerez certainement du blond de Gad Elmaleh. C'est énervant. Le mec, il a toujours raison, il est toujours bien, il est toujours beau gosse. Die ! Il est tellement éloigné de nous, en fait. Donc, quand est-ce que Yosef il réussit très, très bien ? Chez nous, quand il est avec nous, ça ne marche pas. Mais quand il est chez les goïms, il est au top. Bon, tu as compris que Yosef, s'il n'est pas ministre des Affaires étrangères, il sera ambassadeur. Ambassadeur à l'ONU. Bien sûr. Il est parfait chez eux. Il reste chez eux. Il nous représentera de loin. Binyamin, Ze'ev Yitraf, Baboker Yochal Ad, Vela Erev Ichalek Shalan. Binyamin, il est génial. Il a les qualités d'un chef. Mais il ne tient pas la distance. Binyamin, il est bon en début de processus et en fin de processus. Ba Boker Yochal Ad ou Ba Erev Ichalek Shalan. Toute la journée, il y a Boker et il y a Erev, il n'y a pas le reste. En d'autres termes, Binyamin, il aura été le premier roi d'Israël, Shaoul. Il aura été le dernier dirigeant du peuple juif, Mordechai. Mais il ne tient pas la distance. Binyamin sera toujours rattaché à Yehuda. Il sera son plus proche conseiller. Mais il ne peut pas le supplanter. Il n'a pas ce qu'il faut pour tenir la distance. Il a donc besoin d'être collé à Yehuda. Binyamin sera donc dans notre gouvernement qu'on est en train de mettre en place, il sera-t-on, je sais pas moi, on pourrait dire le Yoshev Rosh HaKnesset. Il sera le conseiller premier du chef. Et enfin, revenons au chef. Yehuda. Revenons à Yehuda. Vous allez voir que les versets de Yehuda nous montrent pourquoi c'est lui le chef et personne d'autre. Yehuda, ata yoducha achecha. La première qualité qu'il faut pour être un chef, un dirigeant, c'est que les gens t'acceptent comme chef et comme dirigeant. Donc d'abord et avant tout, yoducha achecha. Tes frères t'acceptent comme étant le chef. Ata yoducha achecha. Yadecha be'oref oivecha. Yishtachavu lecha b'nei avicha. C'est non seulement on accepte que tu sois le chef, tu fais l'unanimité, mais en plus, tu es quelqu'un qui sait montrer de la puissance fondamentale pour un chef. Tu as ta main à la gorge de tes ennemis. Et oui, tu ne vas pas laisser te marcher dessus sans rien faire. Nous, Veishtachavu lecha b'nei avicha. B'nei avicha, ça veut dire pas seulement les fils de Léa, mais tous les fils de Yaakov. Et pourquoi il a ces capacités de dirigeant, de leadership? Eh bien, parce qu'il a un secret. Son secret, c'est Gour Arié Yehuda. Kodem Kol Gour, et ensuite seulement Arié. Gour, c'est un petit lionceau. Arié, c'est Simba quand il est déjà adulte. Yehuda, il a le secret de la savlanout. De regarder sur le long terme. Yehuda, il tient la distance. Ou Gour, et ensuite seulement Arié. Gour Arié Yehuda. Miterev ben Yalita, karev. Miterev sera, miterev ben Yalita, kara ravatz, ke Arié ou ke la vie, miye kemenu. Et fort de cette capacité d'aller léat, léat, à un moment donné, de Arié, il devient la vie. La vie, c'est le roi lion. C'est ça la grandeur de Yehuda. Et donc, lo yasur shevet mi Yehuda, umchoken mi raglav, ad ki yavo shilo. Personne ne prendra la place de Yehuda jusqu'à ce que vienne Shilo. Shilo, c'est l'un des noms du Melech HaMashiach, qui vient de Yehuda. Velo ikatamim, isri la gefen iro, vela soreka beni atono, ki bez beyayin nevusho, ובדם הנביאים סוטו. חלחילי עיניים מן יין, ולבן שיניים מחלב. Dans les terres de Yehuda, il y a de quoi produire du vin, et il y a de quoi produire du lait. Pour produire du vin, il faut des kfanim, il faut des vignes. Pour produire du lait, il faut des troupeaux. Dans le nord de la tribu de Yehuda, c'est là qu'on fait paître les troupeaux. Dans le sud, c'est là où on fait le vin. Mais ça veut dire également autre chose. Yain zemidat adin, ze adom. Alors que le lait, zemidat achesed. La grande capacité qu'a Yehuda à être également Baal din, mais également Baal chesed, fait de lui, eh bien, tout simplement, ce roi lion, qui est l'idéal du maître et du chef du peuple d'Israël. Ainsi, nous avons donc un gouvernement idéal. Je répète, Réhouven, vice-président, Shimon, ministre de l'éducation, Lévi, ministre de l'intérieur, Zevulun, ministre de l'économie, Asher, ministre de l'agriculture et de la Revacha, Naftali, ministre de la culture et des sports, Gad, ministre de la défense. Qui est-ce que j'ai encore oublié? On a dit Yosef, ambassadeur du peuple juif. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Autant pour moi. Zira, Kagagen, Dan, ministre de la justice, évidemment. On parlait également de Issachar, ministre du culte. Et enfin, eh bien, nous avions évoqué Binyamin, le conseiller du premier ministre, du roi, et Yehuda, Melech Israël. Avotai, une fois qu'on a dit ça, eh bien, je reviens sur le verset Kafret, qui nous dit, Kol ele shivte Israël shne masar. Tous ceux-là sont les enfants d'Israël, ils sont 12. וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. Voilà, nous avons bah, tout simplement l'idéal de ce que représentent les 12 côtés du peuple juif. Et je ne sais pas si je peux me permettre de vous le dire. Pourquoi n'a-t-il pas béni Dina ? Ah, pour une raison très simple. Il ne bénit pas Dina parce que Dina ne va pas être une des tribus d'Israël. C'est-à-dire que Dina, malheureusement, finalement, nous dit le Midrash, va être prise par Shimon. C'est-à-dire que lorsque Shimon va, avec Lévi, détruire la ville de Shrem, ils viennent chercher Dina et Dina refuse de partir avec eux, disant que maintenant qu'elle a été violée, plus personne ne voudra d'elle, c'est pas la peine qu'elle parte. Et Shimon lui promet qu'elle viendra avec lui, qu'elle sera comme sa femme. Et à ce moment-là, elle a accepté de venir, ce qui veut dire que Dina, maintenant, elle fait partie de Shevet Shimon. Donc elle n'est plus une tribu à part entière, elle ne l'a jamais vraiment été, mais elle n'est certainement plus, à la fin de l'histoire, une tribu à part entière. Maintenant qu'on a écrit tout cela, qu'on a expliqué tout cela, eh bien, en fait, on a tout simplement mis en place l'idéal de ces 12 tribus. Et je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais quelque part, eh bien, chacun d'entre nous, on peut sentir vers quoi on est plus attiré. Est-ce qu'on est plus un artiste, un sportif? Est-ce qu'on est plus un homme militaire? Est-ce qu'on est plus, et ainsi de suite? Et peut-être que ça reflète notre appartenance au niveau de notre âme à notre tribu. Je lance ça, je n'ai aucun argument pour prouver ce que je dis, mais quelque part, j'en suis intimement convaincu. Une fois qu'on a dit cela, eh bien, il ne reste plus qu'à nous séparer. Nous séparer de Yaakov, nous séparer de Yosef, et en fait, tirer un trait sur ce livre de Bereshit qui nous a présenté le peuple juif. Comment cette histoire se termine ? Quel est le trait qui est tiré sur la fin du livre de Bereshit ? Eh bien, ça, c'est ce qu'on verra dans notre dernier cours. Pourtant, nous ne sommes aujourd'hui que 2,5 tribus. Tu as raison, quoique. Tu as raison, quoique. C'est-à-dire, tu parles de Yehuda, Binyamin et un peu de Lévi. Mais ce n'est pas vraiment exact. Pourquoi ? Eh bien, parce que Yoshiyahu Melech Yehuda, après la débâcle face à Sanhérib et la destruction du royaume du Nord, eh bien, Yoshiyahu Melech Yehuda a ouvert les frontières de Yehuda pour les réfugiés du Nord. Et donc, il y a parmi nous, parmi ce Eretz Yehuda, plein de réfugiés qui étaient des 12 tribus. Donc, qui sait ? Peut-être qu'il y a encore parmi nous ces 12 tribus. Mais même s'il n'y a pas, le Rav Kook explique que Am Israël a reproduit les 12 tribus de manière mélachoutite. Et dans la mesure où, d'après Rabbi Akiva, eh bien, les 12 tribus vont revenir à un moment donné, même celles qui ont été exilées à l'aide des Sanhérib, eh bien, il est tout à fait possible d'aiguiser nos sens pour se ressentir comme étant appartenant à une tribu qui nous parle au niveau de notre cœur. Je ne peux pas te le prouver, mais c'est une conviction profonde. Comment est-ce qu'on va tirer un trait sur le livre de Bereshit et se permettre à se préparer à l'entrée dans le livre de Shemot ? Eh bien, ce sera le but de notre dernier cours qui aura soit lieu la semaine prochaine en chair et en os, soit quand on pourra se voir en chair et en os. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, Chag Shavuot Sameach. À bientôt tout le monde.
Super, tout d'abord à tous. Une seconde.